retardataire. Je voulais vous souhaiter tout d'abord la bienvenue à cette nouvelle conférence de la société Quétine au monde et vous remercier également de vous être déplacé. C'est toujours rassurant, réconfortant de constater qu'il y a dans notre communauté des personnes qui sont curieuses d'esprit et animées par un esprit de découverte. Je voulais, avant de commencer, également remercier nos commanditaires, sans lesquels, évidemment, la société Quétine au monde n'existerait pas. Il s'agit, en l'occurrence, des organismes et personnes suivantes, Madame Françoise Boivin et Madame Nicole Turmel, l'une et l'autre députées fédérales, respectivement, de Gatineau et de Hull-Elmer, de la ville de Gatineau, bien sûr, de l'association de circonscription du Bloc québécois de Gatineau, de l'alliance du personnel et technique de la santé et des services sociaux, de l'imprimerie Multiprinting et de la coopérative de café La Tiracop. Merci également aux commerçants qui nous permettent également d'utiliser leurs locaux à titre de point de vente pour nos billets. Je pense ici à l'échelle du monde, au café La Tierra, au café Village Dépôt Trombiné, la bouquinerie Dédé, la librairie du Soleil, la librairie Louis Fréchette, la librairie Michabou et l'épicerie Sol Santé. Nous accueillerons ce soir Monsieur Simon Tremblay-Pépin. Excusez-moi. Simon Tremblay-Pépin est chercheur et responsable des communications à l'IRIS, donc l'Institut de recherche et d'information socio-économique, excusez-moi, et consultant en relations publiques. Après des études en journalisme et un bref passage comme journaliste dans les grands médias, il a été pendant 10 ans co-rédacteur en chef du mensuel satirique Le Couac. Pour ce qui est du déroulement de la soirée, donc, comme d'habitude, nous écouterons notre conférencier pendant 45 minutes environ. Puis ensuite, nous aurons une période de questions. Je reviendrai sur le déroulement de la période de questions ultérieurement. Et enfin, surtout ne partez pas tout de suite après la période de questions, car nous aurons un tirage, même 2 tirages. Une annonce également, la semaine prochaine, mercredi 13, la Société Quétine au monde tiendra son assemblée générale annuelle. Cela aura lieu à la salle Jean Ali, Maison du Citoyen, donc ici, mercredi 13 à 19h30. Vous êtes tous les bienvenus et on vous attend avec un vin fromage. Revenons maintenant donc au menu du jour, à savoir l'intervention de Simon, donc qui nous parlera des médias d'information. La fonction de ces médias est de créer et maintenir un espace de débat public intelligible à tous. Il s'agit là, évidemment, d'une vision qui relève davantage de l'idéal que de la réalité. Nous verrons ce qu'il en est avec Simon. Merci beaucoup. Voilà.
Alors bonsoir mesdames, messieurs, mon nom est Simon Tremblay-Pépin, ça fait grand plaisir d'être avec vous ce soir, ça fait d'autant plus plaisir de retrouver la salle Jean Després que j'ai fréquenté moi-même comme spectateur il y a de ça presque probablement 20aine d'années quand j'étais moi-même résident de l'Outaouais et que j'étais venu voir Daniel Bélanger, j'en parlais à certains d'entre vous et c'était une grande chance d'être dans une si petite salle et de voir de la si belle musique. Cette salle m'a toujours beaucoup plu, donc grand plaisir d'être avec vous. On m'a invité pour vous parler d'un bouquin que j'ai écrit, que j'ai publié en 2013, qui s'appelle « Illusion », un petit manuel pour une critique des médias. Ce bouquin a très peu d'ambition et très peu de moi, en fait. C'est un ouvrage que j'ai écrit où je tente de parcourir divers auteurs sur la critique des médias. Ce qu'essaie de faire la seule ambition de cet ouvrage, c'est de doter ceux et celles qui le liront de quelques outils pour pouvoir comprendre, critiquer nos médias d'information, nos grands médias d'information. J'avais des amis, il a été mentionné que j'ai fait partie du mensuel Le Couac. Au Couac, on préférait parler des gros médias plutôt que des grands médias. Pour des raisons que vous comprendrez, hein, s'il s'agit de parler de taille, il nous semblait que la circonférence de la bedaine respectait davantage le type de média dont il est question que la hauteur, si je puis dire. Donc, dans Illusion, j'essaie de donner quelques petits outils pour qu'on puisse regarder les médias et tout le monde, vous le savez, hein, fait de la critique des médias. On en fait tous, tous les jours. Du moment qu'on écoute un peu la télé, la radio, qu'on lit les journaux, qu'on va sur Internet, ben, à un moment donné, on tombe sur une nouvelle, puis là, on se dit, « Ouais, il me semble que c'est une drôle de façon de l'aborder. Où est-ce qu'ils ont vraiment dit ça? Ou pourquoi est-ce que ça, c'est en premier, puis ça, c'est en deuxième? » On est toujours un peu à se poser ce genre de questions-là. Donc, on en fait tous un peu de la critique des médias. J'ai voulu aller voir divers auteurs pour pouvoir essayer de nous doter de meilleurs outils pour qu'on soit plus perspicace, pour qu'on soit plus critique dans ce rapport-là. Eh bien, je vais essayer ce soir de vivre au niveau des ambitions de l'ouvrage et de prendre des thèmes d'actualité que nous avons ces temps-ci, parmi des thèmes d'actualité brûlants et des choses plus, disons, plus généraux et intemporelles. Je vais en prendre trois avec vous et je vais essayer d'utiliser quelques éléments qu'on trouve dans cet ouvrage-là. En conséquence, si par hasard, vous tombez sur le bouquin et vous le lisez, ben, je ne vous aurais pas raconté tout ce qu'il y a dans le livre avant que vous l'ayez lu, hein, ce qui serait malheureux. Mais en plus, je vais essayer de vous démontrer que ces petits outils-là nous permettent d'être utiles, d'être intéressants et intelligibles quand il s'agit de regarder les médias. Alors, je vous propose trois sujets, comme on a 45 minutes, passer un petit 15 minutes sur chacun des sujets. Et ensuite de ça, ben, à la période de questions, gênez-vous pas, on pourra en discuter, aller plus avant. Ou même, si vous avez, vous, des éléments du traitement médiatique qui vous a surpris, embêté de certaines questions, ben, on pourrait y revenir et puis échanger ensemble, si ça vous convient. Alors, les trois sujets que je vous propose, il y en a un qui est très à la mode en ce moment, c'est les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, hein, qui reçoit un traitement médiatique particulier. J'aimerais ça en discuter avec vous. Ensuite, on va suivre avec la course à l'élection à la chefferie du Parti québécois, hein, sujet on ne peut plus à la mode dans les journaux, aujourd'hui encore. Hein, ça faisait la nouvelle, ça défrayait la manchette. Et on va terminer sur quelque chose de plus général, mais dont on entend beaucoup parler, la question de l'austérité. Dieu sait qu'on a discuté d'austérité. Et là, évidemment, ben, j'ai les deux chapeaux là-dessus, celui d'analyste des médias, mais aussi de chercheur socio-économique qui a consacré beaucoup de son énergie, il faut bien que je l'admette, dans les derniers mois, à regarder, à étudier les politiques d'austérité du gouvernement en place, mais aussi des gouvernements précédents. Hein, parce que l'austérité ne date pas d'hier, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. Allons-y donc sur la question des séries éliminatoires. Comme vous voyez, hein, c'est à chaque fois que je parle d'illusion, je prends toujours un sujet différent, donc j'ai préparé ça en m'en venant. Il me semble que sur la question des séries éliminatoires, on tombe directement sur un point focal important de la critique des médias. C'est la question de l'intérêt du public et de l'intérêt public. On n'est pas là dans la haute critique des médias, la fine pensée théorique. On est à la base même de ce que devrait être le journalisme. Et pourtant, quand on regarde la couverture dont on a qu'on exerce quand il est question des séries éliminatoires, eh bien, on se rend compte que, mais que se passe-t-il, en fait, avec nos médias? L'intérêt public, qu'est-ce que c'est supposé être, l'intérêt public? L'intérêt public, c'est ce dont on doit se préoccuper parce qu'il est politiquement essentiel que l'on le sache, parce que nous serions citoyens, citoyennes, hein, partie prenante d'une cité et d'un monde politique où on doit prendre des décisions. En conséquence, on nous informe de choses importantes. Ce serait le rôle des médias. On nous informe de ces choses-là pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions possibles. Ça, c'est l'intérêt public. Hein? On reconnaît bien toute son importance, toute sa hauteur. On dit, bon, là, vous devez prendre des décisions, vous devez être des gens informés. En conséquence, on va vous dire ce qui est important. Les journalistes seraient, dans ce contexte-là, hein, des gens qui discriminent. Ils reçoivent une série d'informations, une marée d'informations, si vous avez déjà mis le nez dans le fil de presse, hein, qui est le lieu où tout le monde envoie ses communiqués de presse. Au Québec, d'ailleurs, c'est un monopole privé, le fil de presse, qui est quand même assez troublant. Mais bon, donc si vous regardez un fil de presse pendant une journée, vous allez voir 70, 80, 90, une centaine de communiqués qui y ont été émis. Bien, les journalistes ne vous parlent pas de chacun des communiqués qui a été émis. Puis ça, c'est juste que sur le fil de presse. Hein. Pendant ce temps-là, il y a des feux à telle place, il y a des... quand il y a un feu qui part, il n'y a pas un communiqué d'émis, hein, évidemment. Il y a donc un ensemble de choses qu'il faut couvrir. Les journalistes sont là, en théorie, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Hein. Ils nous disent, on va faire une discrimination. Il y a des affaires sans importance qui se passent, on ne vous en parlera pas. Puis il y a des affaires essentielles qui se passent, et c'est elles dont on va vous parler. Non seulement on va faire ça, mais en plus on va les prioriser. On va vous dire, en début de bulletin, en une du journal, hein, au-dessus de nos magazines, en ouverture de notre émission de radio, on va vous parler des choses les plus importantes, et vers la fin, vous aurez des choses moins essentielles, plus secondaires. C'est le travail, c'est le cœur du travail journalistique. Et c'est comme ça qu'on détermine l'intérêt public. L'intérêt du public, maintenant. Là c'est une autre... Là, le public prend un tout autre sens. Ici, dans l'intérêt public, hein, c'est à la mesure de ce qu'on pourrait appeler la République, hein, la chose publique, res publica, hein, c'est ce qui nous rejoint tous, hein, ce dont on fait tous partie, cette communauté-là. Mais le public de l'intérêt du public, c'est plus nous comme téléspectateurs, comme consommateurs de médias. Eh bien, quand on nous dit, quelqu'un d'entre vous me témoignait que Radio-Canada Radio, probablement parmi les médias les plus sérieux qu'on a encore au Québec, pour les quelques-uns qu'on a encore, ouvrait son bulletin, de 7 heures, qui vient de passer, en nous parlant d'une décision d'arbitrage de la Ligue nationale de hockey. Hein. On ouvrait le bulletin avec ça. Telle personne, hein, a eu une décision favorable ou défavorable, etc. Je vous passe le détail. On nous faisait la première manchette de cette décision-là. Évidemment, l'intérêt du public, vous le voyez apparaître exactement là. Les gens aiment le hockey, en conséquence, on va leur parler de hockey. Hein? De la même façon, les gens ont un amour particulier pour les vedettes de la télévision. En conséquence, les résultats de la voix vont faire la une du Journal de Montréal. Là, ici, il y a un autre enjeu qui est en cours, on en reparlera plus tard. Mais on pourrait aussi parler de plein de cas de starlettes de la télé qui, ici ou là, vivent des scandales et sont couverts allègrement. Hein? On se rappelle d'un qui n'a pas si longtemps que ça. On a effectivement, là ici, un cas d'intérêt du public où on nous dit, le hockey, ça vend du papier. Alors, on va procéder. On va mettre ça en avant, on va leur raconter, on va leur dire. Ici, les médias, vous pouvez dire, oui, ben moi, ça m'intéresse le hockey, fait que ça tombe bien. Hein? Je veux en entendre parler, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que les médias font leur travail quand ils choisissent de vous parler de ça? Bien, la première réponse qu'il y a à se donner sur cette réponse-là, c'est que non. En fait, ils travaillent contre nous en nous parlant des choses qui nous intéressent d'emblée. Pour la simple et bonne raison que si ça nous intéresse déjà, si la voix, par exemple, est déjà suivie par 3 millions de personnes le soir même, faire sa une de journal avec la même affaire que tout le monde a écouté la veille, c'est surtout dépenser du papier. C'est surtout dépenser de l'espace, alors que tout le monde le sait déjà que c'est machin ou chose qui a gagné tel prix ou telle affaire. On n'a pas besoin de ça. Et Influence Communication faisait justement récemment la comparaison en disant, regardons dans le monde, quel est l'événement le plus couvert la semaine dernière? C'était les tremblements de terre au Népal. Au Canada, c'était les tremblements de terre au Népal. Au Québec, la première nouvelle, c'était le Canadien. La deuxième nouvelle, c'était le Gala Artis. Et la troisième nouvelle, c'était le tremblement de terre au Népal. Donc, vous voyez, ici, il y a aussi une particularité du Québec, qui est vraiment de s'être concentré sur son univers médiatico-culturel et d'en faire la promotion allègrement. Et le fait qu'au Québec, il y ait un empire médiatique qui soit également un empire culturel n'est pas étranger à ce fait-là. Il y a deux empires médiatiques au Québec. Maintenant, il y en a trois, un nouveau, qui s'appelle Capital Média, mais qui est plutôt comme le fils de l'empire médiatique précédent, présidé par Martin Cochon, qui était très près de Power Corporation. Donc, GESCA d'un côté et Québécois de l'autre. GESCA, c'est un empire du vieux style, où on dit, bon, oui, on a plusieurs possessions. C'est un empire financier, Power Corporation, qui a des choses un peu partout dans le monde, que ce soit des intérêts en Asie, des intérêts en Europe, dans l'eau, dans les mines, dans les métaux rares, toute une série d'intérêts partout dans le monde, mais aussi possède des journaux au Québec. En fait, possédait des journaux au Québec, maintenant n'en possède plus qu'un, mais qui ont une importance déterminante. Et se servait de ces journaux pour dire, donner un certain ton à l'espace public québécois. On va parler avec un certain intérêt de la privatisation de la santé. Bon, ça tombe bien. On a aussi des compagnies d'assurance. Alors, si un jour ça devait être privatisé, on saurait dans quelle poche ça va aller. Mais on ne va pas non plus dire, on ne va pas faire la promotion ad nauseam de telle personne ou de telle autre. Par contre, c'est un genre de vieux style, on donne une certaine autonomie à la salle de nouvelles. Par contre, chez Québécois, c'est une toute autre situation. L'argent qui fait Québécois, elle vient du monde culturel. C'est un empire d'abord culturel et d'abord médiatique. En conséquence, faire la promotion des émissions qui sont jouées à TVA, faire la promotion des produits qui sont vendus chez Archambault, des disques, etc., c'est s'assurer que la machine roule. Si on ne fait pas ça, on a des chances que demain matin, ça tombe. Alors là, l'intérêt du public, pour y revenir, il est hautement important. Quand TVA Sport obtient la couverture des matchs du Canadien et que le Journal de Montréal trouve soudainement, bon, il a toujours bien aimé couvrir Canadien, que ce soit RDS ou pas, qui ait les droits, mais là, soudainement, ça devient de plus en plus pertinent de faire qu'on parle des séries, qu'on se dise, oui, on est rendu là, qu'on fasse de l'analyse page après page, après page, en tout cas, de l'analyse pour ce que ça peut être dans le milieu sportif, mais néanmoins, donc, qu'on nous offre ô combien de mots et de papiers sur ces dossiers-là. Donc, d'un côté, intérêt public, intérêt du public, je pense que cet exemple-là de la couverture actuelle des séries, où on nous dit « voilà ce qui est important dans vos vies en ce moment », alors que ça n'a, entendons-nous, politiquement, aucune importance. Le Canadien pourrait demain matin disparaître, bon là ça aurait des conséquences économiques, mais pourrait demain matin arrêter de jouer pour ces séries-ci, ça n'aurait aucune conséquence fondamentale. Mais on a choisi que c'est de ça dont on nous parlait parce que ça nous permet de vendre du papier. Ici, on refuse de faire un travail médiatique sérieux. Évidemment, il y a l'entreprise privée, je vous en parlais, hein, c'est Chomsky et Ehrman dont je parle un peu dans l'ouvrage, qui nous disent, quand vous pensez aux médias, ne pensez pas à une entreprise de presse. Ne pensez pas à des gens qui veulent faire de l'information. Pensez d'abord que c'est une entreprise, point. C'est d'abord et avant tout des gens qui veulent faire du profit. En conséquence, s'il y a du profit à faire avec le Canadien qui marque des buts ou qui n'en marque pas, dans le cas qui nous occupe, eh bien, on va tapisser les journaux de tout ça, si besoin est. On va en parler en ouverture du bulletin de 18 heures, si besoin est. Si ça fait rentrer plus d'argent dans les coffres, c'est ça qui compte. Et il me semble, déterminant de garder en tête cette analyse-là, de garder en tête quand on écoute les médias, quand on écoute les médias privés, mais même quand on écoute le télédiffuseur public, qui lui aussi doit aller chercher des revenus en publicité, qui lui aussi, hein, pour pouvoir boucler son budget, il a besoin, quoi, aujourd'hui, de presque 400 millions de revenus en publicité. C'est énorme. Pour pouvoir avoir ces revenus-là, il lui faut absolument aller chercher de l'audimat, hein, des codes d'écoute, pour pouvoir obtenir des sommes suffisantes pour survivre. En conséquence, on n'a pas le choix de penser ces bêtes-là, les médias d'information, d'abord et avant tout comme des entreprises. Et il me semble que dans ce cas-ci, c'est très important. Et ça nous amène à une autre critique qu'on peut formuler des médias, le mimétisme. Comme ce sont des entreprises, on pourrait penser que si on a écouté Scoop, par exemple, bon, là, ça date un peu, j'imagine que je devrais parler des jeunes loups ou de ce genre de choses-là, on a l'impression d'un milieu médiatique en constante effervescence et en recherche, justement, de l'exclusivité. Hein? On veut tout de suite mettre la main sur la nouvelle exclusive. C'est vrai, il n'y a aucun journaliste qui refuse une bonne exclue, hein, un Scoop qui va faire son nom et sa carrière, bien entendu. Sauf que ça, c'est les moments d'exception dans la carrière journalistique. Hein, ce n'est pas tous les jours qu'on a un dossier qui met en jeu des enjeux internationaux et tout ça. Non. Généralement, on couvre des nouvelles du quotidien. Et quand on monte, que ce soit un téléjournal, que ce soit une édition papier des journaux, etc., la première préoccupation qui est dans la tête de beaucoup de chefs de pupitre, de rédacteurs en chef, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe chez mes concurrents? Pourquoi? Parce qu'on est dans une entreprise où, effectivement, on veut le beurre et l'argent du beurre. On veut à la fois obtenir ce qui nous permet de se distinguer, mais on ne veut surtout pas avoir oublié quelque chose qui se passe chez les autres. Alors, quand on est en train de préparer le bulletin, on regarde pour dire, ah oui, eux autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah, il nous a annoncé qu'il allait parler de ça. On est peut-être mieux d'en rajouter aussi. On est peut-être mieux, nous aussi, de parler de ça, même si au départ, on s'était dit que ce n'était pas si pertinent que ça, parce que sinon, on ne sera pas dans le coup. Et ici entre le phénomène de mimétisme qui fait que, pour nous comme public, qui devions profiter au départ de la diversité médiatique, hein, qui devions profiter du fait qu'il y a plusieurs voix et qu'on peut aller s'informer à plein de voix et se dire « Ah oui, ça c'est intéressant, mais eux autres me parlent d'autre chose, je vais aller voir autre chose, etc. » Eh bien, finalement, on perd cette diversité. Il y a toujours l'impression de la diversité. On peut changer de poste. Mais on se rend compte, et je suis sûr que vous avez vécu déjà cette expérience-là dans votre vie, on se rend compte qu'en fait, ils nous parlent des mêmes nouvelles, qu'on soit à un poste ou qu'on soit à l'autre. Et là, on se dit, mais à quoi ça me sert d'en avoir quatre postes différents qui me racontent toujours la même affaire? C'est le phénomène du mimétisme. C'est qu'on commence... Comme on décide d'être très prudent, pourquoi? Pour ne pas perdre des auditeurs. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour pouvoir vendre la pub, parce qu'on agit d'abord comme une entreprise privée prudente, plutôt que comme un média d'information qui dirait, OK, TVA, il parle juste du Canadien à soir, nous autres, on n'en parle pas. Nous autres, on ne le fait pas. Tant pis pour eux autres. Le monde qui veut entendre parler de ça, ça tombe bien. Il y a un autre poste qui s'en occupe. Ils iront l'écouter. Nous autres, on parle d'autre chose. Ce geste-là, bien sûr, qui se prend parfois dans des salles de nouvelles. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'étais à Drummondville après une conférence et le système de transport collectif interurbain au Québec étant ce qu'il est, c'est-à-dire largement déficient, Je devais attendre là pendant 4 ou 5 heures, donc j'étais dans un hall d'hôtel où jouait LCN en continu. Et à chaque heure, on me parlait, on ouvrait le bulletin à propos de cette dame de Réseau Québécois a appelée la voleuse sexy. Hein? Je n'avais jamais entendu parler de cette dame. Et on m'a informé de ses prouesses et tout ça allègrement à LCN. Mais pour me rendre compte qu'à Radio-Canada, jamais il avait été question de cette nouvelle-là pour laquelle TVA ouvrait. Donc, le mimétisme a effectivement ses limites. Ça existe. Il y a des affaires que, dans certains médias, on dit, ouais, eux autres, ils couvrent ça, mais ça, c'est tellement niaiseux. Nous autres, on couvrira pas ça. Et heureusement, ça existe encore. Mais ça existe très peu. Et une étude systématique des bulletins de nouvelles, et que j'aimerais bien réaliser un jour, où on prendrait tout l'ordonnancement des bulletins de nouvelles pendant, je ne sais pas moi, 2 mois, 3 mois, et on étudierait chacun, je pense qu'elle nous révélerait beaucoup plus de similarités que de différences. Et pourtant, il ne manque pas de nouvelles au Québec. Et une des choses qui peut vous faire la démonstration de ça, regardez le nombre de conférences qui sont appelées dans une journée, le nombre de conférences de presse, prenons seulement celle-là, il y a plein d'autres événements médiatiques dans la vie. Regardez le nombre de conférences de presse et regardez le nombre d'entre elles qui sont couvertes dans une journée. Il y en a énormément, on peut en avoir 10, 15 dans une journée de conférences de presse. Et combien vous allez en voir au téléjournal où vous allez en entendre parler à 18 h? Peut-être 2, 3, 4. Tout le reste, ils ont fait leurs conférences de presse devant des salles vides. En général, c'est ça qui se passe. La plupart des gens, lorsqu'ils tiennent des nouvelles. Donc, les séries éliminatoires nous servent aussi à comprendre le mimétisme où tout le monde se dit, ouais, ben là, tout le monde parle de ça. J'ai pas le choix, moi aussi, de parler du Canadien. J'ai pas le choix de faire le relais de ces nouvelles-là, même si c'est pas vraiment des nouvelles. Je me sens forcé de le faire parce que sinon, on va perdre trop de monde qui s'intéresse à ça. Donc voilà, j'arrête de vous parler du Canadien maintenant. De toute façon, c'est très, très loin d'être ma spécialité. J'imagine que ceux qui connaissent ça le devinent d'emblée. Parlons de la course au Parti québécois. Il me semble qu'il y a là aussi dans Illusion quelques outils qui vont nous être utiles. On est face à une drôle de course, entendons-nous. Une course où on dit qu'il y a quelqu'un qui va être couronné, etc., etc. Je ne veux pas parler de la course elle-même, que de comment les médias en ont traité. Premièrement, dans un parti politique, que ce soit le Parti québécois, que ce soit le Parti libéral, le NPD, etc., de l'activité politique, il y en a à l'année. Il y a des instances, il y a des congrès, on discute d'affaires de programme, on fait toutes ces affaires. Ça, là, les chances que vous voyez des médias dans ce genre d'affaires-là, ça arrive à peu près jamais. Quand il est temps de discuter, et là c'est intéressant, quand il est le temps que les membres du parti discutent de politique et bâtissent les propositions qu'ils sont supposés faire à la population, quand il est le temps de faire ça, les médias ne sont pas là. Mais quand il est le temps de choisir un chef ou une chef, ah là, ça devient extrêmement important. Là, on couvre tous les débats. Là, il y a une marée d'intérêt pour tout ça. Regardez le dernier débat et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Je reviendrai dans quelques instants. Il est clair qu'il y a une personnification, complète de la politique. C'est-à-dire que la question, et regardez la façon dont les médias font, et je pense que le terme personnification dans le cas de la politique québécoise est encore plus marqué. Regardez les questions de sondage, comment les sondages sont construits par les médias, parce que vous le savez, les médias commandent des sondages, demandent certaines questions très précises dans ces sondages-là. Et les questions qui sont posées, c'est quel va être l'effet de ce chef sur le parti? C'est quoi le postulat en arrière de ça? Le postulat, c'est que le parti peut dire n'importe quoi. Il peut avoir le programme A, le programme B, ça n'a pas d'importance. La question, c'est qui le chef? On veut choisir telle personne ou telle autre. Quand le Parti québécois ou le Parti libéral adoptent son programme, Est-ce qu'on fait des sondages pour demander qui va voter pour le Parti québécois s'ils maintiennent ou non leur appui à la proportionnelle, par exemple? Est-ce que vous avez déjà vu un sondage qui fait ça? Personne. Personne ne pose cette question-là. Pourtant, il s'agit d'une question politique extrêmement importante et d'un changement de cap du Parti québécois qui a cessé d'appuyer la proportionnelle, ce que les gens savent relativement peu. Ici, on n'a pas, il n'y a pas lieu de faire un débat. Par contre, est-ce que Pierre-Carl Péladeau est un homme colérique et agressif? Alors là, on est dans une question politique de première importance. Et là, ici, les médias sont le relais, évidemment, des spins concoctés par le Parti libéral. Hein, vous avez entendu, une série de gens du Parti libéral, le leader parlementaire en tête, nous dire « on n'a jamais vu ça à l'Assemblée nationale, un homme comme ça, etc. etc. » Passons sur les spins, ça fait partie de leur métier d'essayer de nous faire croire ou entendre des choses. Ben correct, mais comment se fait-il que les médias rapportent ces propos? Non, bien sûr qu'ils les rapportent, ça fait partie de leur travail. Mais titre à grand, vraiment en manchette, les titres avec les grosses lettres sur ce type de débat-là. Et regardez la couverture des débats. Et là-dessus, la couverture des débats dans cette course à la chefferie ici, ou la couverture des débats qu'on a lorsqu'il y a élection, est-ce que là encore, la question de fond programmatique est la question qui compte? Est-ce qu'on nous demande, nous, comme société au Québec, est-ce qu'on veut telle option ou telle autre? D'ailleurs, on a un petit problème, c'est que la plupart de nos partis politiques se ressemblent tellement qu'on a un peu de difficulté à faire des débats de fond. Mais passons sur ce commentaire politique. Mais est-ce qu'on aurait pu, par exemple, lors des dernières élections, se poser des questions sur Anticosti? Hein? Voici une bonne question. C'était un élément de débat, etc. Quand on a écouté, rappelez-vous, les commentaires et les analyses médiatiques post-débat. Est-ce qu'on se demandait, est-ce qu'on a démontré la valeur de ce projet-là ou tout ça? Non, la question c'est, est-ce que Mme Marois a eu l'air sûre d'elle sur cette question-là? Est-ce qu'elle était sur la défensive? Est-ce que ses adversaires ont marqué des points? Qu'est-ce que ça veut dire, marquer des points? Ça ne veut pas dire apporter un nouvel argument ou nous faire comprendre le projet sous un nouvel éclairage, c'est avoir un aplomb, une assurance, un regard de conquérant. Ça, c'est ce qui compte en politique. Et donc, ce qui compte en politique, ce n'est pas la politique. Ce qui compte en politique, c'est les communications. Et ça, c'est très drôle. C'est les médias qui réussissent, en parlant d'autre chose, à parler en fait d'eux-mêmes. C'est les médias qui réussissent, en parlant de politique, à parler d'abord et avant tout d'effets médiatiques. Est-ce que ces gens-là paraissent bien? Est-ce qu'ils passent bien à TV? Ah oui, ah non, pas tellement, telle cravate, telle attitude, tel geste. Oui, ça c'est problématique, ça les gens aiment moins ça. OK? Ça c'est correct que ça vous intéresse comme genre de TV et de médias et de tout ça, mais si on est supposé être en train de se demander ce que collectivement nous sommes en train de faire, ce que nous voulons faire, est-ce que c'est si important que ça? Puis pourquoi on y accorde tant d'importance? On revient ici à l'intérêt public et l'intérêt du public, on y revient à peu près constamment dans le débat sur les médias. Est-ce que c'est le rôle des médias de nous donner leur opinion sur ce qui passe bien dans les médias? Et c'est ici qu'on est arrivé à un cercle complet. On fait la boucle avec la politique. Parce que finalement, ils sont juges et partis. Ça ici, ça passe bien dans les médias. Je le sais, j'y suis tous les jours. Oui, d'accord, on peut dire que cette personne-là passe bien. Et regardez d'ailleurs Pierre Bourdieu, dont je parle dans l'ouvrage, dans son tout petit ouvrage sur la télévision, nous raconte le rapport des médias aux intellectuels. Il dit, c'est très drôle parce que dans les champs particuliers, Pierre Bourdieu a une sociologie où il regarde des champs dans la société, dans le champ où on peut avoir une spécialité, admettons, dans les sciences naturelles ou en histoire, on peut être un scientifique, un penseur, un auteur reconnu dans son champ, de grande stature, où on dit « Ah oui, voilà une personne qui fait du travail extraordinaire », et ne jamais être appelé par les médias. Bourdieu nous dit « C'est normal, parce que quand vous traversez, quand vous sortez de votre champ et que vous passez dans le monde médiatique, vous avez changé de champ. » Et là-dedans, les critères de sélection pour savoir si vous pouvez rentrer ou pas, ils ne sont pas les mêmes que chez vous. Ils ne vont pas aller chercher le meilleur historien ou la meilleure historienne en fonction des critères de l'histoire, de la discipline historique. Ils vont aller chercher la personne qui pense le mieux à TV. Ça, c'est le critère du champ médiatique. Eux autres, ils ont bien plus besoin de ça que de l'excellence ou de la spécialisation. En fait, pour avoir été responsable des communications de plein d'affaires, souvent quand on leur dit « c'est un grand spécialiste du domaine », qu'est-ce que ça fait aux médias? Ça leur fait peur. Ils disent « ah non, le monde ne comprendra pas ». Par contre, si vous leur dites « ah lui, cette personne-là, elle vulgarise très bien, elle est très à l'aise, elle est très naturelle, et surtout, elle a déjà fait de la télévision. Ah, ben là. Hein? Toutes les portes vous sont ouvertes. Ah, ben oui, j'aimerais beaucoup l'entendre. On peut faire une petite pré-entrevue, etc. Et ça décolle bien. Eh bien, pour les personnages politiques, c'est la même chose. Le média est rendu la politique. Un ami et moi, on discutait un jour et on en est venu à la conclusion que l'espace public est occupé par les médias, ce qui est un fait. Mais occupé, pas dans le sens de prendre la place, occupé au sens où on occupe un bureau de ministre. Les médias sont comme rentrés dans l'espace public et ont pris tout l'espace. Or, il y a comme plus d'endroits où on peut avoir une discussion en dehors de leurs critères à eux autres. Et le cas de la politique est particulièrement endommagé et particulièrement frappé par cette maladie-là. Parce qu'en fait, il ne se fait plus beaucoup de politique en dehors des pages des journaux. Je regardais, et là-dessus, la transformation des discours, c'est un élément que j'aborde aussi, la transformation des discours sur le discours politique, elle est incroyable. Si vous allez faire un tour, parce que bon, j'ai pas eu la chance de vivre cette période, mais si vous allez faire un tour sur les archives de Radio-Canada et que vous regardez, par exemple, on parle de débats au sein du Parti québécois. Vous savez que c'est quand même pas une nouvelle qu'il y a des débats au sein du Parti québécois. Si vous regardez les congrès du Parti québécois des années 70, où vous avez Bourgault, Lévesque et tout ça qui débattent, vous regardez un topo de Radio-Canada, et vous allez voir que les formats ont énormément changé. Vous regardez un topo où on est d'abord, ils sont dans le congrès. Deuxièmement, il le filme. Et vous avez Pierre Bourgault qui parle au micro pendant 5-10 minutes, retransmis sans commentaire, sans montage ou quoi que ce soit. Il est juste là, il nous parle. Et puis vous voyez non seulement Bourgault qui fait son discours, ce discours sur la sécurité, puis la respectabilité, et puis bon, il s'emporte comme le faisait Pierre Bourgault. Et juste à l'avant, assis là, à peut-être un mètre et demi de Bourgault, il y a René Lévesque qui est en beau joual vert, comme il l'était face à Bourgault à l'époque, qui fume cigarette sur cigarette et dont on voit évidemment l'impatience et qu'il contient à peine sa rage. Quand est-ce que vous avez vu ça dans les médias, ce genre de joute politique, de rapport? Et là, René Lévesque ira parler plus tard, puis bon, on suit tout le congrès et tout ça. Et là, il se passe quelque chose politiquement devant nos yeux. Quand est-ce qu'on voit ça? Aujourd'hui, on voit des contextes extrêmement léchés, extrêmement lisses. Hein? La conférence de presse, le discours d'ouverture des congrès. Hein? Bon, là, le chef vient nous parler, puis nous dit bla, 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 bla. Là, on prend ça, on en prend un extrait. Hein? On nous fait un topo de 2 minutes 30, un extrait de 10 secondes où on nous dit « Monsieur Machin a parlé de ceci, hop, on a un extrait, après ça on revient, le journaliste nous fait l'analyse, nous prémâche tout ce qu'il y a dans le congrès, parce que on ne serait comme pas capable de comprendre, nous autres, ce qui se passe politiquement. On a besoin de Pierre Maisonneuve. Ah non, lui, il est passé de l'autre bord. On a besoin, bref, de quelqu'un qui vienne nous expliquer ce qui se passe politiquement. On ne peut plus le comprendre en écoutant les gens. Et là-dessus, ça a transformé aussi le discours des politiques. Les politiques se sont eux-mêmes et elles-mêmes adaptés à ce qui se passe dans les médias. C'est ce que j'appellerais le discours, on est passé du discours explication, du discours on explique ou on convainc, au discours action. Comme on a très peu de temps, et comme tous les médias sont centrés sur il faut faire quelque chose, hein, il faut arrêter de le blabla et toutes ces choses-là, non, il faut faire des trucs, alors on arrive en conférence de presse, puis on annonce qu'on fait ceci ou qu'on fait cela, on qualifie les choses, on dit, bon, je me rappelle Mario Dumont, une clip qui avait beaucoup marché dans un budget où j'étais, il avait pris tous les médias avaient pris cette clip-là, ça avait été la clip de la journée, c'était Mario Dumont qui prenait le budget du Québec qui venait d'être déposé, il dit, ça, c'est un budget de bougon. Et là, ah, ça, c'était de la clip en or, on avait eu ça partout dans tous les... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un budget de bougon. Ça, c'est une analyse budgétaire, ça? Mais évidemment, il y avait autre chose à dire, M. Dumont. Là. Il parlait après ça. Il n'est pas arrivé, il s'est pas assis, il n'a pas levé le budget, il a dit ça, puis il est parti. Il a continué à parler après ça. Mais ça n'intéressait plus les médias. Il y avait leur clip. Mais pensez-vous que c'est par hasard qu'il a fait ça? Évidemment, il y a son staff qui était en arrière puis qui a dit « Oh, ah oui, ça, c'est une bonne ligne, ça sort là, excellent. » Et ça a marché. Ils ont eu une très bonne journée. Ils étaient très contents, je suis sûr, à la fin de la journée, de dire « Là, on a marqué des points. » On ne sait pas quel point, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas pourquoi. Ça reste toujours mystérieux, mais c'est cette perspective-là qui habite maintenant complètement les politiques, qui fait d'ailleurs qu'ils sont assez mauvais et mauvaises quand vient le temps de nous convaincre, quand vient le temps de nous parler longuement, de nous expliquer qu'est-ce qu'ils et elles veulent faire avec le Québec. Et là, je retourne à notre course à la chefferie actuelle. Les avez-vous écoutés essayer de nous dire des choses? On peut aimer l'un, l'autre, on peut ne pas aimer le Parti québécois, tout est possible. Mais est-ce qu'on est transporté par des gens qui seraient, qui nous amèneraient là, quelque part en termes de discours politique, où là, on se dirait, ah oui, ça c'est convaincant. Il y a un projet, on s'en va là, il y a quelque chose. Non, ils peuvent être sympathiques, avoir l'air intéressant une fois ou deux, puis bon, nous faire quelques bons moments, etc. Mais on n'est pas du tout dans le discours politique marquant où tu dis, ah ouais, et je me rappelle, un Lucien Bouchard, par exemple, offrait parfois de ce genre de discours. Hein, je me rappelle de certains de ses discours osés, etc. Puis de Pierre-Éliott Trudeau, bien entendu, mais ça appartient à une autre génération médiatique. Mais on dirait que maintenant, ce n'est pas tellement qu'ils n'en sont pas capables. Je pense que ce sont tous des gens très talentueux dans le monde politique actuel. Ils ne le pratiquent plus. Ils ne font plus ce travail-là parce que ce n'est pas utile. Il n'y a personne qui leur demande ça. Et là, pensez-y collectivement ce qu'on perd. Il n'y a personne qui leur demande de venir nous parler de politique et de nous convaincre. On leur demande de bien paraître, d'avoir l'air sympathique, d'avoir l'air jeune, de ne pas trop avoir l'air fâché. Ça va être ce que tous les conseillers de Pierre-Carl vont dire pour les deux prochaines semaines. Là, il ne faut pas que tu aies l'air fâché. Bon. Mais c'est de cet ordre-là qu'il est le conseil politique et le conseil de communication de nos jours. Là. C'est ça qu'on essaye de faire. Mais il n'est pas question de dire, bon, là, aujourd'hui, on va dévoiler notre programme sur ceci, ça, ils le font tous les jours, OK. Là, on sait que nos adversaires ont tel argument qui est désavantageux pour notre projet. On va bâtir un nouvel argumentaire, on va aller convaincre les gens de ça, on va avoir telle expertise, telle proposition. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Ah, on veut utiliser tel mot-clé. On veut développer tel type de clientèle électorale qui aime beaucoup entendre parler de ça. Ah, toi, tu marches fort chez les femmes, on devrait te consacrer dans des événements qui leur ressemblent. Va dans telle émission, Hein, ça, c'est bon pour toi, c'est bon pour ton genre de public. C'est là qu'on est rendu. C'est plus du tout à essayer de nous parler, de nous convaincre. Mais là, je m'emporte, là, quand c'est question de politique, ça fait toujours ça. Je pense que on peut peut-être passer, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, on peut peut-être passer à la question de l'austérité. Évidemment, si je pense, c'est ça, je vais essayer de me restreindre, parce que si je pense sur l'austérité, on va en avoir pour la soirée. Ce qui, moi, me frappe le plus, je ne sais pas pour vous, sur la question de l'austérité, c'est que dans ce cadre-là, on a vu une stratégie de communication se déployer. Puis, il fallait vraiment être aveugle pour ne pas voir la stratégie gouvernementale, se déployer sur la question de l'austérité. Le premier jour de leur élection, la première chose que le Parti libéral, actuellement au pouvoir, a fait, c'est de prendre le téléphone, d'appeler deux économistes, Luc Godbout, Claude Montmarquette, pour réaliser un rapport déposé deux semaines plus tard. Une recherche économique deux semaines plus tard. Là, pas l'avant-propos, le résultat préliminaire des données. Non. Mise en page, corrigée, imprimée, toute la patente. Ils ont été élus le 7 avril, le 25 avril, on l'avait dans les mains. Bref, ils ont demandé à ces deux personnages-là, des économistes très proches du Parti libéral, on le sait parce qu'ils ont publié moult rapports sous des gouvernements du Parti libéral, puis quand c'est les péquistes au pouvoir, là, ils disparaissent. Dans les économistes aussi, hein, il y a des amitiés avec les partis au pouvoir. Donc, il y a ces deux économistes qui nous remettent un rapport pour nous dire que c'est la catastrophe, que les finances publiques du Québec vont extrêmement mal. Et à partir de ce moment-là, le ton de toute l'année qui va suivre, là, la première année du gouvernement en place, tout le ton est donné. Ça ne changera pas. Il n'y aura pas de variation. C'est la situation des finances publiques est critique. Ben, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Vous le connaissez par cœur. On l'a entendu pendant un an. Donc, la situation économique est critique. Il va falloir que le gouvernement prenne ses responsabilités, fasse le ménage. Ça va être difficile. Les Québécois, les Québécoises vont devoir se serrer la ceinture. Mais on va y parvenir et on va atteindre le déficit zéro alors que nos prédécesseurs, blablabla. Bon, ça, là, cette ligne de communication-là, là, elle a été installée deux semaines, j'ai jamais vu ça vite de même, deux semaines après leur élection, et elle a tenu pendant un an. Et elle a tenu sur quoi? Elle a tenu sur un rapport qui nous dit qu'on aurait fait 5,5 milliards de déficit en 2014-2015 et 7 point quelque chose milliards de déficit en 2015-2016. On a été quelques économistes à gauche à dire, ouais, vraiment, 5,5 milliards, vous pensez ça, vous autres? Et à dire, bien, en fait, si vous regardez le texte du rapport, il dit que ça, c'est si on tient compte des demandes des ministères au Conseil du Trésor, demandes auxquelles le Conseil du Trésor précédent avait déjà dit non à 1,8 milliard sur le 3,2 supplémentaire que vous comptez. Donc, en fait, il n'existe pas votre 3,2, au moins de moitié. Il a déjà été refusé. Pourquoi vous nous parlez de ces chiffres-là? C'est intéressant dans l'absolu, mais je veux dire, on n'a plus à débattre de ces chiffres-là. On a déjà procédé. Et là, le gouvernement, de ne pas répondre, de maintenir sa ligne, de dire oui, on s'en va vers un déficit de 5 milliards. Les médias, de prendre tambour, trompette, de répéter ces chiffres-là pendant 6 mois, jusqu'à temps qu'un billet de blog de Gérald Filion vienne dire « Ouais, le 5,5 milliards, là, il ne tient pas sur grand-chose. » Et là, tout le monde commençait à dire « Ouais, peut-être qu'on aurait pu l'utiliser. » Et là, vous avez vu les médias moins utiliser ce chiffre-là et ou qualifier le chiffre en disant « Le gouvernement prétend qu'il aurait bon, etc. » Donc, installer un doute. Après six mois d'une information dont plusieurs doutaient dès le départ, mais dont il fallait pas faire de la recherche dans d'autres documents. Là. C'est dans le document même, les deux économistes nous le disaient d'emblée. Ce chiffre-là, il est à mettre en perspective par rapport à blablabla. Fait que là, tu dis ça, puis tu dis, OK, bien, ça, c'était une stratégie de com'. Ça, il y avait des gens en relations publiques, en arrière, qui se sont dit, on va mettre ça de l'avant, ça va nous faire un gros chiffre. Fait que quand on va arriver avec des réformes en santé, en éducation, etc., en disant, on n'a pas le choix, ça va pouvoir passer parce que le monde va se dire, c'est terrible. Déjà que ça fait 10 ans qu'on nous dit que l'endettement au Québec, c'est terrible. Déjà que ça fait 10 ans qu'on nous dit que les déficits, ça n'a pas de bon sens. Bien qu'on ne faisait pas de déficit, mais bon, c'est pas grave. On faisait comme si. Et on a eu 10 ans, hein, depuis 2005, je dis 10 ans à cause du manifeste des Lucides qui a été publié en 2005 et qui fête sa 10e année cette année. Réjouissons-nous. Ça fait 10 ans qu'on nous dit... Les huissiers sont à nos portes, la situation du Québec. Les huissiers sont à nos portes, c'est une citation textuelle, hein, du manifeste des Lucides. Il faut juste dire, en passant, qu'à cette époque-là, la dette du Québec par rapport à son PIB diminuait à chaque année. On nous dit, les huissiers sont à nos portes. Un an après la publication du manifeste, Moody's augmentait de 2 crans la cote de crédit du Québec. Évidemment, nous étions dans une situation catastrophique. Passons sur ce détail. Revenons à comment le gouvernement Couillard mobilise toute cette culpabilité. Et je pense que c'est de ça dont il faut parler. Il n'est pas beaucoup question de discours économique dans le cas qui nous occupe. Il est d'abord et avant tout question d'un discours moral. On nous dit, vous devez de l'argent collectivement, c'est mal. On nous le reproche moralement. Peu importe à la limite que vous... Et Robert Gagné le disait, Robert Gagné, économiste à HEC Montréal, il disait, peu importe si notre niveau d'endettement est haut ou bas par rapport aux autres pays, l'important d'une dette, là, c'est qu'elle porte intérêt. En conséquence, on devrait se débarrasser de toutes les dettes. Cette logique-là est absurde. Je veux dire, tous les pays sont endettés. Le niveau de notre dette par rapport à nos partenaires commerciaux, il est très important. D'ailleurs, quand il était désavantageux pour nous, on ne cessait de nous le dire que c'était important. Maintenant que c'est plutôt avantageux de se comparer, là, soudainement, c'est plus important, il faudrait juste éliminer les dettes par principe. Parce qu'on va chercher dans quelque chose, dans une culpabilité bien ancrée chez nous, ancrée entre autres, parce que nous, comme individus, nous avons beaucoup de dettes. En fait, le Québec et le Canada, depuis 2008, ont vu leur niveau d'endettement personnel augmenter depuis la crise, alors que tout le reste des autres pays, bon, les États-Unis, c'est un cas particulier, là, il y a tellement de monde qui ont fait faillite que le niveau d'endettement a diminué, mais ce n'était pas une bonne nouvelle pour autant. Mais partout ailleurs dans le monde, l'endettement individuel va plutôt en décroissant. Au Québec, au Canada, ça continue d'augmenter. On est rendu, si on en croit le dernier budget fédéral, à 166 % d'endettement au Canada. 1,66 $ de dette pour chaque dollar de revenu annuel. C'est énorme. C'est les plus hauts montants d'endettement qu'on a eu depuis qu'on prend des stats sur l'endettement. En conséquence, il y a cette culpabilité, elle est très, très compréhensible. Elle est très facile à vivre pour nous. Alors, on se dit, on n'a pas le choix. Il faut faire le ménage. Même si les mesures qui sont proposées, et ça, c'est le plus drôle de l'affaire. Quand on nous dit, on n'a pas le choix, il faut augmenter les tarifs de garderie. Ah, on n'a pas le choix, il faut faire une grande réforme dans le système de santé. Hein, il va falloir adopter le projet de loi 10, le projet de loi 20, etc. Tout ça parce qu'on est vraiment très déficitaire. On se dit, ah oui, combien ça rapporte? Admettons, les tarifs de garderie, on est supposé devoir combler un déficit de 5,5 milliards, vous comprenez. Les tarifs de garderie, là, selon le dernier budget, et ça c'est les estimations du gouvernement, ça pourrait être moins, c'est même pas 200 millions. 5,5 milliards qu'il faut aller chercher. La fusion des commissions scolaires, selon M. Bolduc, M. Blais, il en parle moins de la fusion des commissions scolaires, mais M. Bolduc, quand il la défendait, il disait que ça allait peut-être rapporter 26 millions. Il faut qu'il aille chercher 5,5 milliards. C'est sûr que ce n'est pas avec ça qu'il va aller chercher. En fait, il ne faut pas qu'il aille chercher 5,5 milliards parce que ça n'existait pas, ce déficit-là. Mais ils prétendent ça. De la même façon, quand vous regardez le système de santé, peut-être 220 millions d'économies en 2017. Selon les plans du gouvernement, ça fera 3 ans qu'ils ont atteint l'équilibre budgétaire en 2017. pourquoi on aurait besoin de faire ça si on a déjà atteint l'équilibre budgétaire? Ce n'est pas pour l'équilibre budgétaire. C'est clairement un plan de communication qui s'est réalisé pour continuer des mesures et des réformes qui avaient déjà cours avant l'arrivée du gouvernement Couillard au pouvoir. M. Charest les avait commencées. Certaines ont été poursuivies par le gouvernement péquiste. On peut penser au financement de l'activité dans le milieu hospitalier, mais qu'importe. On est ici pour, je ne suis pas ici pour parler d'austérité économique. Si je me lance là-dedans, on ne finira plus. Mais je pense que ce qu'on a vu là, c'est la résultante d'une stratégie de com et l'ignorance crasse de l'économie de la part de la plupart des journalistes qui sont en poste en ce moment. Il y a des journalistes économiques, des journalistes qui font un excellent travail. Il y en a. Il y en a très peu. On leur donne très peu de moyens. Et souvent, ils n'ont pas la possibilité de couvrir tout ce qui sort en économie. Ce qui fait que ce qui arrive souvent, et j'ai eu la responsabilité de tenir plusieurs conférences de presse sur des questions économiques dans ma vie, et ce qui arrive quand des journalistes arrivent dans une salle de conférences de presse où on va parler d'économie. La première chose qu'on constate, c'est le niveau de stress chez la plupart des journalistes. Pas les journalistes économiques, ça va. Mais généralement, là, comme il y en a 3 ou 4 au Québec qui sont spécialisés là-dedans, ben, si vous en avez un ou deux dans votre salle de conférences de presse, vous êtes chanceux. Les autres, ce n'est pas du tout leur tasse de thé. Ils ont ce matin couvert, je ne sais pas, tel accident ou tel feu. Là, ils couvrent votre affaire d'économie, puis après ça, ils vont être sur le culturel. Il n'y a pas de problème, hein? C'est comme ça dans les médias aujourd'hui. Alors là, la question qui se pose, c'est, je vais-tu comprendre? Puis je vais-tu être capable de transmettre l'information que j'ai reçue? C'est ça le défi, ce jour-là. Alors, la distance critique, là, par rapport à des gens comme moi ou des gens qui travaillent à l'IRIS, ça c'est facile, il y a toujours la même distance critique, c'est « on va-tu avoir l'argent? Oui, mais la dette, etc. etc. » Fait qu'ils répètent les affaires qu'ils entendent à TVA, ça va. Mais quand c'est le temps de s'adresser au ministre des Finances ou à des hauts fonctionnaires qui leur disent « c'est ça qui se passe », pensez-vous qu'ils ont le bagage pour remettre en question ce qui est en train de se faire là? Regardez c'est quoi la formation, j'en parle un peu, faisant une parenthèse sur Gramsci dans le bouquin. Regardez c'est quoi la formation des journalistes aujourd'hui. J'ai étudié en journalisme à la Cité collégiale, une institution locale, et il y a le collège à Jonquière, il y a l'université à Laval, à l'UQAM, à l'UDM aussi, il y a un certificat. Regardez de quoi sont composées ces formations-là. Essayez de trouver la part d'apprentissage sur comment fonctionne la société québécoise. Si ça fait 10 % du cursus, là, c'est bon. 90 % du cursus en journalisme aujourd'hui se consacre d'abord et avant tout à former des techniciens et des techniciennes de l'information. Des gens qui sont capables d'écrire un bon lead, de faire un bon topo, de bien parler à TV. Ça, c'est important. Si on les forme, puis on fait des tests, puis on améliore, puis de la pose de voix et tout ça, on fait des tests pour les plus pratiques, à les envoyer, à faire couvrir de l'événement, les pratiquer, à sortir la nouvelle, etc. Bon, là-dedans, ils apprennent forcément un peu comment, par exemple, l'hôtel de ville fonctionne. Ils vont couvrir tel événement municipal. Alors, ils comprennent, ils apprennent sur le tas. Mais la plupart des journalistes sortent de ces formations avec une connaissance extrêmement moyenne, pour ne pas dire passablement médiocre, de comment fonctionne la société québécoise. Quand vous leur faites une proposition du type, vous leur dites demain matin, en conférence de presse, le PIB du Québec de 230 milliards ou le PIB du Québec de 330 milliards, quelle part d'entre ces gens-là vont pouvoir identifier quelle proposition est vraie, de quelle proposition est fausse? À peu près aucun. Et je ne parle pas d'une donnée économique de second ordre, là. C'est ce qui est utilisé quotidiennement dans la presse économique. Hein? Eux autres même parlent du PIB sans arrêt. La plupart auraient de la difficulté à vous situer sa mesure, pas sa mesure exacte, là, approximative. Ce manque de formation criant, là je parle d'économie parce que c'est le domaine dans lequel je travaille, mais on pourrait tout à fait parler des structures démocratiques. L'autre fois, un jour, petite anecdote, je vais finir avec ça parce qu'on veut pouvoir jaser. L'autre fois, j'ai participé à un ouvrage sur le syndicalisme au Québec et j'ai eu une discussion avec un recherchiste du 98.5 à Montréal, c'est une radio de Cogeco, où il y a Paul Arcand, bon, une série de grands animateurs. C'est celle qui est la radio qui est la plus écoutée à Montréal. Lui, il était recherchiste pour Isabelle Maréchal. Il me dit, j'ai écrit sur les communications et les syndicalismes, il dit, c'est vrai qu'on ne les connaît pas beaucoup, hein, les directions syndicales. Il dit, vite de même, moi, vous me demandez de nommer un seul président d'une grande centrale syndicale au Québec. Je ne suis pas capable. Puis là, j'ai OK. Puis là, il dit, attendez, je vais demander à mes collègues. Mais j'étais très, très, très content qu'il procède devant moi à une étude sociologique du genre. Alors, il se lève et puis là, il a demandé, bon, il me dit, 4-5 collègues autour de lui, personne n'était capable, dans la salle de nouvelles, probablement pas vraiment une salle de nouvelles, plutôt là où l'équipe de l'émission se rencontre, personne de ces recherchistes-là était capable de nommer une seule personne à la tête d'une des trois grandes organisations syndicales au Québec. Pas une. La connaissance des mouvements sociaux, la connaissance des mouvements démocratiques, elle est nulle. Ils n'ont d'ailleurs aucun contact dans ces milieux-là. C'est ça qui est le pire. Regardez, meilleur exemple, regardez la grève étudiante de 2012. Quand il a fallu que les journalistes se dépêtrent à comprendre comment fonctionnait l'AC. C'est pas compliqué, là. C'est une structure confédérale. Ça ne prend pas la tête à Papineau, là. Il y a des AG à la base, ils votent des mandats, ils s'en vont d'un congrès, le porte-parole parle au nom du congrès. Voilà. Tu sais, tu n'as pas besoin de 10 ans d'apprentissage de structure là, pour faire ça. Oui, effectivement, il y en a plein d'associations étudiantes, ils peuvent avoir des positions différentes les unes des autres. Effectivement, ça amène des débats, bon, tout ça. Mais au niveau, non, ça ne part pas d'en haut, puis ça descend, ça part d'en bas, puis ça monte. Une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas très compliqué. Mais c'est tellement ancré dans la tête des médias que toutes les organisations fonctionnent comme la leur. C'est à ça qu'ils réfèrent. C'est comme les policiers qui, lors des manifestations, cherchaient, une blague classique de manifestation, qui cherchent le chef des anarchistes. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris du mouvement en art, et qui pensent que ça marche comme chez eux. Ce n'est pas un constable, il ne sera pas habillé avec des... En tout cas. Mais donc, il y a cette vision que toutes les organisations fonctionnent de façon hiérarchique et pyramidale. Il y a quelqu'un en haut, il donne des ordres, puis le monde en bas, ils suivent. Quand tu leur expliques quelque chose d'autre, tu dis, « Ouais, mais là, ça peut... » Première réaction, je sais, Dieu sait combien de journalistes m'ont appelé pour dire, « Oui, non, je ne veux pas vous interviewer, je veux juste comprendre. » Et leur première réaction, une fois que tu leur as expliqué, parce que ça ne prend quand même pas 10 ans à expliquer, ils disent « Ouais, mais ça ne peut pas marcher. » Alors, vous voyez, on est passé de l'enquête journalistique à la tentative ou au préjugé sociologique. Là. On dit « Là, j'ai un constat sur la structure démocratique dont tu me parles. » Mais tu peux même penser ça si tu veux. Ça fait quand même 10 ans qu'ils s'organisent comme ça, puis ça marche. C'est quand même là. Bref, il me semble qu'il y a dans la vision des médias, et c'était particulièrement le cas quand il a été question de l'austérité, une habitude à aller très, très proche de ce que dit le gouvernement. Chomsky, dont je vous parlais tantôt, et Ehrman parlent des sources officielles. C'est très dur pour les médias de contester les sources officielles. J'ajouterais à la suite de Ehrman et Chomsky, c'est encore plus dur quand il parle de chiffres. Quand le gouvernement fait des annonces sur des chiffres, quand il nous dit « Ah, ça vaut tant, on est rendu là, etc. » Contestez ça, là. Ça semble absolument impossible. C'est tellement gros, puis on peut tellement se tromper. Les journalistes ont extrêmement peur de l'erreur. On les comprend. Hein? C'est un métier public, etc. C'est un peu honteux de commettre une erreur sur des chiffres, etc. Puis on t'en parle à la job pendant 3-4 mois après. Donc, ils ont très peur de ça. Et les chiffres, c'est pas comme les mots. Les mots, tu peux toujours, tu t'enfermes dans quelque chose, tu peux toujours rajouter des trucs ensuite, puis t'expliquer, puis là, de manière. Mais si tu dis 1,2 alors que c'était 1,4, bien, tu as dit 1,2. T'sais. Donc, tu ne peux pas revenir en arrière, tu peux dire 1,2,9, presque, ou quelque chose de même. Tu ne peux pas le changer. Ils ont donc très, très peur de, un, d'être inexact, et deux, de contester le gouvernement sur des chiffres, parce qu'ils ont l'impression, et c'est une impression qu'ils communiquent allègrement à la population. Je me rappelle de deux que, bon, je n'arrêterai jamais. Il va falloir arrêter cette conférence. Je me rappelle de deux cas. Le premier, c'était Bernard de Rome, qui introduisait l'arrivée d'un économiste dans le studio en disant à ses auditeurs, là, il nous parlait, et il nous dit quelque chose comme, « Bon, là, on va parler d'économie. Ça va être très compliqué. » Ça part bien. « Mais on va essayer de s'en tirer ensemble. Moi non plus, je ne comprends pas tout à ces affaires-là. » Là, tu dis, « OK, oui, on se met dans quel esprit là, en ce moment? » C'est comme si on recevait un magicien en disant, « on va manipuler des arcanes et tout ça. » Et l'autre fois, j'étais à l'émission de Mme Dussault, qui est une journaliste que je respecte beaucoup, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les entrevues qu'elle fait. Mais Anne-Marie Dussault me disait, avant l'émission, elle me disait quelque chose comme, « Ah, je suis tellement contente que Gérald soit là, Gérald Filion, évidemment, qui anime RDI Économie. » Elle dit, « Comme ça, j'ai plus besoin de m'occuper des affaires d'économie, puis moi, ces affaires-là, ça me stresse, j'ai peur de ne pas comprendre, puis je ne veux pas faire ça. » Puis je la comprends. Il y a vraiment, dans l'espace public québécois, l'impression, et pas juste québécois d'ailleurs, partout dans le monde, l'impression que quand on parle d'économie, on parle de quelque chose de secret, quelque chose de tellement complexe. Puis là, il y a des codes, il y a des mots compliqués que le monde ne comprenne pas, puis il faut savoir les maîtriser, puis sinon on a l'air fou. Puis c'est vraiment ce type de discours-là qui entoure l'économie. Il me semble que sur l'austérité, là, toutes les stratégies dont je viens de vous parler ont fonctionné à plein. Et ça a fait que ce qui s'est appelé le débat sur l'austérité, en fait, il n'a jamais eu lieu. Dans l'espace public, on n'a pas débattu. On a pu dire, vous êtes pour l'austérité, et en fait, si vous êtes pour, vous n'appelez même pas ça l'austérité, vous appelez ça la rigueur, vous êtes pour ça, en tout cas, ou vous êtes contre. Mais on n'a pas pu dire, ouais, ben, moi, je suis assez contre l'austérité, mais de toute façon, on s'en fout parce que ce n'est pas de ça dont il est question. Il est surtout question de changer le système de santé, il est surtout question de fusionner des commissions scolaires. On pourrait parler de est-ce que c'est une bonne idée de fusionner des commissions scolaires? Ça pourrait être ou de couper des directions régionales au ministère de l'Éducation, ou de faire tout ça. 8 millions, hein? Grosse économie, 8 millions, les coupures des directions régionales. Et, passons. On aurait pu faire tous ces débats-là, on ne les a pas faites. Ce qu'il fallait dire, c'est, êtes-vous contre l'austérité? Alors, vous êtes pour les déficits. Donc, si vous êtes en défaveur des transformations du système de la santé, défendez-nous le fait que l'État fasse des déficits. Mais ça c'est juste pas comprendre. C'est pas amener, simplifier un débat. C'est juste parler de quelque chose quand il est question d'autre chose. Et il me semble que sur le débat sur l'austérité ou le non-débat sur l'austérité, ça a beaucoup été ça. J'arrête ici, au lieu de continuer à parler inlassablement. Et peut-être qu'on peut passer une période d'échange